ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 1er, le chapitre 21 du premier livre des Chroniques. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux au roi, mon Seigneur. Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi, mon Seigneur, demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël ?» Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab, et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David, « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main donc soit sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'ornant le Jébusien. David monta, selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses quatre fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce que lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan 600 sicles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air d'Ornan, le Jébusien, y offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes, étaient alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Et David dit, « Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Amen. » Le titre de mon message ce matin, c'est « Le dénombrement et également l'ère d'Ornan ». J'aimerais souligner et mettre en relief d'une manière particulière combien nous avons, mes chers frères et sœurs, le grand privilège d'être établis dans la grâce de Dieu et de ne plus être les uns et les autres sous le règne, je dirais, de la loi. Bien que je profite aussi de cette occasion pour dire que la loi est bonne et nous savons tous, comme le Seigneur lui-même l'a déclaré, qu'il ne se passera pas un seul iota, une seule iota ne disparaîtra de la loi, parce que dans le fond, elle est excellente, elle est bonne, mais comme nous avons déjà eu l'occasion plusieurs fois de le dire, c'est Christ en nous qui peut faire ce que par nos propres efforts, nous ne pouvons pas réaliser à accomplir. Mais voyons un peu comment le Seigneur s'est révélé en grâce au travers de ce texte que nous venons de lire ensemble. Vous devez savoir que le même récit se trouve aussi dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 24. Et il y a quelques petites différences entre les deux récits que nous nous appliquerons à relever ce matin. Mais dans ce chapitre, eh bien, la pensée du dénombrement est le résultat de l'action directe, selon ce qui est écrit, de Satan contre Israël. Cependant, dans l'autre passage parallèle, nous voyons que c'est Dieu qui a eu l'initiative. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi y a-t-il dans la parole de Dieu une telle contradiction ? On a presque envie de dire, quoi donc ? Est-ce Dieu qui a voulu ce dénombrement ou est-ce que c'est Satan ? D'un côté, il est dit que c'est Dieu et de l'autre côté, il est dit que c'est Satan. Eh bien, les deux choses sont valables pour la simple raison que Dieu utilise toujours Satan pour accomplir ses propres desseins. Parce que Satan fait toujours une œuvre qui le trompe. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous voyons dans la parole de Dieu cette apparente contradiction, mais en réalité, c'est toujours la volonté de Dieu, c'est toujours le plan de Dieu qui se réalise et qui s'accomplit. Mais la parole de Dieu nous met en face de cette situation où David a à cœur poussé comme cela de faire le dénombrement d'Israël. Est-ce qu'il y avait quelque chose de mauvais en soi ? La parole de Dieu nous parle d'autres dénombrements qui ont été voulus par le Seigneur lui-même. Par exemple, dans le livre de l'Exode, à un moment donné, il est dit que Dieu a demandé que l'on fasse le dénombrement du peuple. Mais il avait une raison particulière. Il fallait connaître le nombre d'hommes qui se trouvaient à Israël capables de donner une certaine somme d'argent pour que l'on puisse faire les bases des colonnes qui soutenaient la toile du tabernacle. Donc, c'était quelque chose qui était dans le sens de la volonté de Dieu. Après, dans le livre des Nombres, on trouve deux fois également Dieu qui demande que l'on fasse le dénombrement du peuple. Mais la première fois, c'est quand justement le peuple allait conquérir le pays de Canaan et il fallait donc connaître le nombre d'hommes qui étaient capables de faire la guerre et d'aller au combat. Mais ici, quelle est la motivation qui pousse David à faire cela ? C'est une recherche de gloire personnelle. Vous savez, Dieu avait fait pour David des choses formidables. Et la Bible nous donne les détails de ce qu'il a accompli en faveur de ce roi. Il est dit que Dieu l'a pris derrière le parc où se trouvaient de nombreuses brebis qu'il gardait. Il a élevé en dignité et a fait de lui le prince d'Israël, le roi d'Israël. Et de plus, Dieu a fait quelque chose de formidable, c'est qu'il lui a accordé un tel soutien qu'il a pu être vainqueur sur tous ses ennemis. David avait donc tout ce qu'il fallait pour être heureux et il n'avait pas besoin de faire le dénombrement du peuple pour savoir sur qui il pouvait encore compter. Dieu lui avait donné la preuve de sa fidélité, Dieu lui avait donné la preuve de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde. Dieu était pour lui le refuge, Dieu était pour lui la haute retraite, Dieu était toujours favorable à David et il n'avait pas d'autre chose à faire qu'à compter sur ce Dieu de grâce, sur ce Dieu d'amour et sur ce Dieu de miséricorde. Mais quand il a donné cet ordre et il s'est adressé à Joab, qui était le général en chef de son armée, eh bien, Joab, qui pourtant n'est pas un homme vraiment formidable, un homme selon le cœur de Dieu, Joab, c'est un homme qui cherche toujours la première place dans le royaume. Mais Dieu l'a quand même utilisé quelquefois pour des choses qui étaient vraiment à sa gloire. Par exemple, c'est Joab, ce général d'armée de David, qui a conquis Sion et qui a fait de Jérusalem cette ville formidable où le trône de l'Éternel, comprenez l'Arche de l'Alliance, pouvait demeurer. Cet homme avait certaines qualités, il avait beaucoup de défauts, mais ici, quand il a entendu David parler de cette manière-là, il a réagi et il a dit, mais enfin pourquoi mon Seigneur veut-il faire le dénombrement? Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle tu fais cela? Et il a essayé de freiner le roi dans cette direction qui ne lui paraissait pas bonne, mais même contraire à la volonté de Dieu et à la pensée de Dieu. Mais le roi David s'est entêté et il lui a dit, non, 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 tu fais le dénombrement, obéis à mon ordre, va dans toutes les tribus et compte tous les hommes qui sont à ma disposition et sur lesquels je pourrais bien sûr compter, sur lesquels je pourrais m'appuyer. Et Joab, vraiment à contre-cœur, s'est exécuté. Mais nous devons noter en passant que quand on lit les deux récits dans les deux passages différents, on se rend compte qu'il n'a pas accompli jusqu'au bout la mission qui lui était confiée parce qu'il a oublié, je dirais volontairement, deux tribus et il a passé sous silence le nombre d'hommes qui étaient dans ces deux tribus. Alors, il faut quand même, pour que nous comprenions, la raison pour laquelle Dieu est entré en jugement ici, il faut que nous nous replacions dans le contexte, je dirais entre guillemets, spirituel d'Israël. Vous savez très certainement que la loi de Moïse, les ordres qui avaient été donnés à ce peuple par l'intermédiaire de Moïse, consistaient à servir Dieu dans un lieu très particulier qui s'appelle le tabernacle. Et dans le tabernacle, comme chacun le sait, il y avait dans le lieu très saint quelque chose qui est appelé aussi le trône de Dieu. C'est l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance dont le couvercle est le propitiatoire, là se trouvait placé le sang, et la Bible déclare que c'était comme le trône de Dieu parce que sa présence se manifestait exactement là, à cet endroit. Cependant, depuis quelque temps, à cause du péché du peuple d'Israël, à cause de sa désobéissance, à cause de son immoralité, à cause de son idolâtrie, des ennemis avaient vaincu Israël. Et si vous lisez le livre de Samuel, vous apprenez qu'alors l'arche de l'Alliance a été ravie par les Philistins. Les Philistins l'ont prise, l'ont amenée avec eux, mais écoutez bien ceci. Au moment où les Philistins avaient l'arche de l'Alliance au milieu d'eux, comme Dieu ne pouvait pas supporter que ce soit un peuple incirconcis qui maintienne ou tienne à sa disposition l'arche de l'Alliance, il y a une plaie qui a éclaté. Et des tumeurs ont tenu le corps de ces Philistins, et puis il y a eu une invasion de souris, il y a eu la destruction au milieu d'eux, et les Philistins ont compris que c'était à cause de la présence de l'arche de l'Alliance. Alors, ils se sont parlé les uns aux autres, et ils ont dit, qu'allons-nous faire? Il faut que nous restituions cette arche de l'Alliance. Et ils ont eu l'idée suivante de se faire des tumeurs qui ressemblaient à ceux dont ils avaient été frappés en or, des souris en or, qu'ils allaient offrir justement à ce Dieu d'Israël en ramenant l'arche de l'Alliance dans le pays d'Israël. Et ils ont fait cela. Ont pris des bœufs, un char sur lequel ils ont placé l'arche de l'Alliance, et ils se disaient, les bœufs vont servir d'holocauste, nous allons offrir cela à ce Dieu d'Israël, nous allons présenter l'or à ce Dieu d'Israël, et avec le char, eh bien, nous ferons le feu par lequel l'holocauste sera consumé. Et effectivement, ils ont accompli tout cela et ils ont ramené l'arche justement à Kirjat Jearim. Mais ce n'était pas l'endroit que Dieu voulait pour l'arche. L'arche devait être dans le temple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le roi David a compris l'importance de ramener l'arche de l'Alliance dans le temple. Et vous connaissez tous aussi bien que moi cette histoire. Quand David, alors, s'est armé de courage, mais il a fait une erreur. Ne croyez pas que je m'éloigne de mon texte. Il a fait une erreur parce que il s'est appuyé sur l'exemple des Philistins qui avaient ramené l'arche de l'Alliance sur un char tiré par des bœufs. Et vous connaissez comment Dieu est intervenu, parce qu'il avait donné un ordre précis. Et l'arche de l'Alliance ne pouvait pas être transportée de cette manière-là. Mais il fallait que ce soit ceux qui étaient engagés dans le service de Dieu qui la transportent sur leur épaule. Et là, il y avait une désobéissance. David était plein de bonne volonté. Mais vous savez, mes frères et sœurs, la bonne volonté ne suffit pas toujours. Ce que Dieu désire de chacun d'entre nous, c'est que nous soyons attentifs à ces exigences qui sont mentionnées dans l'Écriture et que nous soyons obéissants à la parole de Dieu. Quand nous faisons ce que lui dit, alors nous pouvons nous attendre à sa bénédiction. Mais si nous faisons d'une manière différente et que notre comportement n'est pas en relation avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu, bien que nous soyons animés peut-être d'une bonne volonté, alors nous devons faire face également au jugement de Dieu. Et ce jugement s'est exercé pour David, comme vous le savez. Uzza, qui était un ami de David, qui était à côté de ce char qui transportait l'arche, au moment où le char a vacillé à cause de ce chemin, eh bien, il y a eu à un moment donné cette bonne volonté qui s'est manifestée de la part d'Uzza, qui a étendu la main pour retenir l'arche, mais il a été frappé de mort. Et David a eu peur. David s'est même mis en colère, nous dit la parole de Dieu. Il s'est mis en colère parce qu'il pensait faire la volonté de Dieu, il ne comprenait pas que le jugement de Dieu l'atteigne. Mais après réflexion, il a pensé à tout ce qui était dit au sujet du transport de l'arche et il s'est ressaisi. En tous les cas, il y a une chose que nous pouvons souligner, c'est que David a vraiment un cœur docile. Il commet des erreurs, mais quand il se trompe et qu'il est mis en face de ses erreurs et de ses turpitudes, il est suffisamment humble pour reconnaître cela et demander à Dieu le pardon. Il s'est ressaisi et il a recommencé l'expérience, mais cette fois en obéissant parfaitement à ce que Dieu demandait, à ce que Dieu exigeait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'arche de l'Alliance a pu être replacée dans le temple. Cependant, après que le peuple ait commis beaucoup de péchés, qu'il ait commis beaucoup de choses contraires à la volonté de Dieu. Alors, le culte que l'on offre à Dieu a été, je dirais, comme ravagé. Il a été démantelé, Et je vous explique pourquoi. Parce que le texte que nous avons lu nous dit que le tabernacle se trouvait à Gabaon avec l'autel qui servait à présenter l'Holocauste à l'Éternel, tandis que l'Arche de l'Alliance, lui, se trouvait à Jérusalem. Alors écoutez bien, la raison pour laquelle là, le culte était disloqué et ne pouvait pas être agréable à Dieu. Ceux qui allaient à Gabaon pour offrir des holocaustes, eh bien, ils pouvaient le faire parce que là se trouvait l'autel d'airain. Mais comment pouvait-il entrer en relation avec le Dieu saint, puisque dans le lieu très saint du tabernacle, eh bien, l'arche n'y était plus, la présence de Dieu n'y était pas. Il y avait donc, si vous voulez, la croix, mais il n'y avait pas de communion possible avec Dieu. De l'autre côté, il y avait l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Et on pourrait dire, mais puisqu'il y avait l'arche de l'Alliance, il y avait donc là la présence de Dieu. Oui, mais nous savons que pour aller jusqu'à cet endroit où se trouvait l'arche de l'Alliance, le souverain sacrificateur devait d'abord passer par l'autel d'airain. Donc, il ne pouvait pas non plus bénéficier parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui conduit là. La croix est au centre de toute chose. Et la croix nous permet d'entrer en relation directe avec Dieu. Combien nous avons entendu ce matin de frères et de sœurs exprimer leur reconnaissance en disant « Seigneur, je pense particulièrement à l'un d'entre vous, qui disait, on ne s'approche pas de toi avec notre propre justice, avec nos finances, on ne s'approche pas de toi avec toutes nos qualités, avec tous nos mérites, on s'approche de toi au nom de Jésus, parce qu'on sait très bien qu'il a payé pour nous sur la croix le prix de notre rachat. Cependant, voyez-vous, mes chers frères et sœurs, la croix, c'est un principe de vie. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle a été dressée une fois pour toutes sur le mont Calvaire. Nous sommes allés au pied de la croix pour confesser un jour nos péchés, nos iniquités. Puis nous avons accepté la justice de Christ dont nous sommes revêtus. Mais attention, après la croix, il y a le chemin de la croix. Et Jésus dit exactement ceci, si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il vienne après moi et qu'il me suive. Or, voyez-vous mes frères et sœurs, aujourd'hui dans le monde chrétien, je dirais dans le christianisme, il y a quelque chose que nous constatons et qui est un véritable problème, non seulement pour nous, les chrétiens, mais aussi aux yeux de Dieu. Il y a des endroits où l'on peut adorer Dieu, en tous les cas, c'est un semblant. On fait des choses qui semblent être un culte d'adoration pour Dieu, mais la vie de ceux qui louent, qui chantent, qui se manifestent comme des adorateurs, n'est pas en conformité avec ce que Dieu attend d'eux. C'est la raison pour laquelle cette adoration apparente ne peut pas être agréable à Dieu. On peut chanter, vous savez, on peut louer le Seigneur, on peut crier « Alléluia », on peut dire « Gloire à Dieu », on peut avoir toutes sortes de manifestations extraordinaires. Et il arrive parfois que dans certaines réunions, il y ait un enthousiasme formidable. Mais il manque la chose essentielle. Il manque le principe de la croix dans la vie de ses adorateurs. Il y a là quelque chose qui ne va pas. Un véritable adorateur, c'est quelqu'un qui non seulement est passé à la croix, mais qui chaque jour expérimente ce que c'est que de vivre sous cette croix formidable. Parce que c'est le signe qui doit caractériser tous les véritables enfants de Dieu. Comprenez ce que je veux dire. Comment est-ce que quelqu'un peut dire « je suis un adorateur en esprit et en vérité » si c'est le dimanche qu'il ouvre la bouche pour louer le Seigneur et que pendant la semaine, il critique, il ment, il a des pensées impures, il vit en contradiction avec la volonté de Dieu. Il y a quelque chose là qui ne compte pas. Il y a quelque chose là qui ne peut pas être agréable à Dieu. Mais imaginez le sens opposé. C'est-à-dire quelqu'un qui se mortifie, parce que certains confondent le chemin de la croix avec le chemin de mort. Ce chemin que nous suivons n'est pas un chemin de mort, c'est un chemin de vie. Mais c'est un chemin de renoncement à nous-mêmes. Parce que pour avoir la vraie vie, il faut renoncer à soi. Et quelques-uns, parfois, eh bien, n'ont les yeux fixés que sur cela. Renoncer à soi, renoncer à soi. Mais c'est un chemin de mort. Ils se mortifient et ils essaient par toutes sortes d'efforts, de moyens qui sont les leurs, d'obtenir ce qu'on ne peut pas obtenir autrement que par une action du Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre vie. Comprenez-moi bien, la sanctification de la chair n'a pas du tout la même valeur que la sanctification qui est suscitée par l'Esprit de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle certains sont comme cela mortifiés parce qu'ils font des efforts, ils font des sacrifices et ils arrivent là étant conscients d'avoir fait certaines choses, mais il manque cet enthousiasme, cette joie profonde que seul l'Esprit de Dieu est capable de susciter dans le cœur. Là, il y a une grande différence. Pour Dieu, ce qui est agréable, c'est de voir quelqu'un qui a compris que seulement par l'Esprit et par sa grâce, il est sauvé, et que là, il a accepté de mettre sa vie en conformité avec celle du Seigneur. Ce n'est pas le résultat d'efforts, c'est le résultat d'un amour sincère et véritable que l'on a pour le Seigneur. Quand voyez-vous, le vrai christianisme, c'est la manifestation de l'amour qu'il y a dans le cœur pour le Seigneur. Quand nous aimons le Seigneur, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de force à faire, il y a simplement quelque chose qui spontanément apparaît de notre cœur et qui va vers le Seigneur, vers notre Dieu. Alors tout cela, il fallait que le peuple d'Israël le comprenne. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a utilisé eh bien, cette expérience négative de David pour rétablir une ère de grâce. Et comment a-t-il fait? Il y avait le châtiment, je viens de dire, Israël avait péché, il y avait la dislocation du culte, et maintenant, eh bien, Dieu va entrer en jugement. Il entre en jugement parce qu'il ne peut pas voir le péché, et bien sûr qu'il veut faire grâce à ce peuple. Mais avant de lui faire grâce, il faut d'abord que ce peuple comprenne le péché, l'iniquité qui le caractérise. Et David lui-même a besoin de comprendre cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie son ange avec l'épée nue dans sa main en dehors du fourreau et il étend son épée sur la ville de Jérusalem. Et vous savez ce qui est dit ici, il y a des milliers de personnes qui tombent sous le coup du jugement. Mais veuillez noter quelque chose. À un moment donné, il est dit ceci, l'Éternel vit l'ange avec son épée nue qui était en train de frapper le peuple. Et quand il a vu cela et que plusieurs milliers de personnes sont tombées, Alors la Bible dit, Dieu se repentit du mal qu'il voulait faire et il arrêta la main de l'ange en lui disant, arrête de frapper avec ton épée. S'il vous plaît, retenez ceci. Il dit, arrête. L'initiative vient de Dieu. C'est Dieu qui dit, arrête. Mais l'ange continue à avoir son épée étendue, il ne frappe plus, mais il ne remet pas son épée dans le fourreau. Il reste encore avec l'épée nue dans la main. Et David, à un moment donné, alors qu'il prend conscience de son erreur, d'un seul coup, il réalise, mais tout cela, c'est à cause de ma faute, c'est parce que j'ai désobéi, je suis passé à côté du plan de Dieu. Alors il commence à prier, à intercéder. Parce que lui aussi voit d'un coup l'ange de l'Éternel avec son épée nue, prêt à frapper. Sauf que déjà, l'épée s'est arrêtée sous l'ordre de l'Éternel. La grâce s'est déjà manifestée. Et David comprend cela. Et vous savez ce qu'il fait ? Il s'humilie devant Dieu. Et il dit, « Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que tu vas frapper ce peuple ?» Alors que c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai désobéi. Et David ici commence à devenir un type même de la personne de Christ. Sauf que Christ est sans péché, il est sans défaut, mais Christ a pris sur lui nos péchés et il a intercédé en notre faveur. C'est la raison pour laquelle David ici commence à prier et il dit, non, ne frappe pas le peuple, frappe-moi, moi. Il prend une place qui est vraiment celle que Dieu peut approuver. Voyez la différence entre la manifestation de son orgueil au départ. Il cherche la gloire, il cherche des appuis humains. Maintenant, il est humilié profondément et il dit, Seigneur, ne frappe pas le peuple, mais frappe-moi, moi. Et Dieu parle à un de ses serviteurs, le prophète Gad, et lui dit, va trouver David et fais-lui cette proposition. Et il lui propose 3 années de famine, 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'ennemi, et 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction. Il y a la destruction qui peut être produite par la main de l'homme, il y a le jugement et la punition qui est exercé par la main de l'Éternel. David, qu'est-ce que tu choisis ? En apparence, il semblait que c'était peut-être plus facile de choisir 3 années de famine ou 3 mois pendant lesquels on est détruit par les adversaires. Mais David a pensé à une chose. Tomber entre les mains des hommes, c'est terrible. Mais tomber entre les mains de Dieu, qui est plein de compassion, ça vaut mieux cela. Et il s'est remis entre les mains de Dieu en attendant le jugement de Dieu. Et en faisant cela, eh bien, il prouve l'intérêt que David avait pour ce Dieu de miséricorde, pour ce Dieu de compassion, ce Dieu de grâce. Écoutez ce qui se passe ensuite. Je vous ai dit, Dieu a vu l'ange et il a arrêté l'épée. David regarde l'ange et il s'humilie devant Dieu. Maintenant, on arrive à une 3e phase. David s'approche d'une aire qui est l'aire d'Ornan. Et Ornan, avec ses 4 fils, voit l'ange. Et lui, il tremble, lui, il a peur. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se cache avec ses fils. Et d'un seul coup, il voit apparaître David. Et là, son cœur commence à reprendre courage. Vous voyez, nous tous, nous pourrions trembler devant le jugement de Dieu. Mais si nous ne le faisons pas ce matin, c'est parce que nous voyons notre David à nous, qui est Jésus. celui qui a payé pour nous, celui qui intercède pour nous. Mon frère, ma sœur, dans quelque situation difficile que tu puisses te trouver, n'oublie jamais que tu as un soutien auprès de celui dont la Bible déclare qu'il intercède pour nous auprès du Père. Et il est notre défenseur. Qu'est-ce qu'il va faire, David ? Il va vouloir acheter l'air d'Ornan. Écoutez bien ici, parce que c'est très important. Cette air-là se trouve où ? Elle se trouve sur le mont Morija. Et tout le monde ici sait très bien ce qui s'est passé sur le mont Morija. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé ? Quand Abraham a entendu la voix de Dieu lui dire « Monte sur le mont Morija et offre en sacrifice ton fils, celui que tu aimes, ton unique fils. » C'était un ordre très difficile, hein ? Et la Bible dit qu'Abraham est monté. Mais souvenez-vous, pendant qu'il montait, alors que le fils suivait docilement le père en portant le bois, le fils a fait une réflexion et il a dit, « Papa, regarde, il y a tout ce qu'il faut pour le sacrifice. Il y a le bois, il y a tout ce qui est nécessaire et tu as aussi le couteau. Mais où est l'animal pour offrir un holocauste ?» Rappelez-vous de ce qu'Abraham a dit. L'Éternel se pourvoira lui-même. Et au moment où il a voulu sacrifier son fils selon l'ordre de l'Éternel, mais nous savons tous que Dieu allait arrêter son bras et c'est ce qu'il a fait, eh bien, il s'est retourné et il a vu un bélier qui était retenu par les cornes. Et Abraham a donné ce jour-là un nom à cet endroit. Et il a dit, ici, ça s'appellera Jéhovah Jiré. Ce qui veut dire, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et voyez-vous, c'est justement là, à ce même endroit, que David se trouve. Il y a une aire, et je vais dans un moment vous parler de l'aire. C'est là où cet homme, Ornan, était en train de battre du froment aussi. Ça me fait penser à une autre histoire, celle de Gédéon, où l'ange de l'Éternel s'est révélé quand lui aussi était en train de battre du froment. Et Ornan, lui-même, en voyant David, reprend courage. L'ange de l'Éternel lui a fait peur, mais David vient, il reprend courage. Et David lui dit, « Est-ce que tu veux me vendre l'emplacement de ton air ?» Et cet homme dit, « Mais je te donne l'air, je te donne les animaux pour l'holocauste, je te donne même les chars pour que ce char-là puisse servir à faire le feu. » Écoutez bien, le feu, ça aurait été l'homme qui allume le feu en bas. Et Dieu ne voulait pas ça. Mais David dit, non, il n'est pas question que j'offre à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Je ne vais pas présenter à Dieu quelque chose qui est à toi. Je veux l'acheter de moi-même. Nous savons celui qui a payé le prix très élevé, qui s'appelle le Seigneur. Et David, lui, il a payé le prix très élevé et il a invoqué le nom de l'Éternel à cet endroit. Avez-vous remarqué ce qui s'est passé ? On avait donné les chars pour que l'Holocauste soit brûlé. Avez-vous vu ? On n'a pas eu besoin de mettre le feu aux chars. C'est Dieu qui a fait quelque chose de formidable, comme il l'a fait aussi pour Élie quand il a invoqué le nom de l'Éternel. C'est le feu du ciel qui est descendu et qui a consumé la victime. Et à partir de ce moment-là, eh bien, que nous dit la parole de Dieu ? David ne pouvait plus aller vers le tabernacle. Pourtant, ça, c'était l'ordre de Dieu. Mais c'était l'ancien régime, c'était la loi. Le tabernacle avait été donné sur le Sinaï. Il ne peut plus aller là. Maintenant, il va servir Dieu d'une manière définitive là, sur l'air d'Ornan, parce que c'est là qu'est descendu le feu de Dieu et qui a consumé l'Holocauste. Voyez-vous, mes frères et sœurs, on ne sert plus Dieu sur le principe de la loi, mais on le sert maintenant en ayant découvert la grâce extraordinaire de Dieu qui a pourvu. Le mont Morija, c'est quoi? C'est le mont Golgotha. C'est là où Jésus a donné sa vie pour nous, où il a donné sa vie en rançon pour nos âmes. C'est là où il a payé le prix tellement élevé pour que nous, nous soyons appelés enfants de Dieu. Désormais, on ne s'approche plus de Dieu autrement que revêtu de la justice de Christ. Mais juste avant de terminer, permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, l'air d'Ornan, ça a quand même une signification. L'air, c'est l'endroit où l'on bat le froment. Pourquoi? Pour séparer le grain de la paille. L'air d'Ornan, c'est le symbole de cette action de l'Esprit de Dieu qui amène quoi? La véritable sanctification. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, eh bien, c'est ça que nous devons comprendre. N'est-il pas écrit quelque part, « Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est pur, tu seras comme ma bouche. » Et l'Église, c'est l'endroit, non pas où tout est accepté, où tout est admis, non pas l'endroit où, sous prétexte de servir Dieu, on peut utiliser n'importe quelle méthode, on peut faire n'importe quoi. Non, mes frères et sœurs. L'Église, c'est le lieu où le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre en conséquence de ce que Christ a accompli pour nous sur la croix. Notez bien que l'Esprit de Dieu n'a pu être répandu sur l'Église que parce que Christ a accompli parfaitement son œuvre sur la croix, il est monté au ciel, son sacrifice a été agréé et l'Esprit de Dieu a été répandu sur l'Église. Et l'Esprit de Dieu répandu sur l'Église, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a placé Christ sur le trône du cœur. Jésus, juste avant de quitter cette terre, en annonçant la promesse du Saint-Esprit, il a dit quoi? Il a dit, il prendra ce qui est en moi et il vous le révélera, il vous l'enseignera. L'Esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Et s'adressant à ses disciples, il leur a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que maintenant, je suis avec vous, comprenez bien, avec vous, à côté de vous. Mais alors, je serai en vous. L'Esprit de Dieu, il place Christ en nous. Et Christ en nous, eh bien, comme cela a été souligné tout à l'heure au moment de la lecture pour la Sainte Cène, c'est quoi? Christ en nous, ça veut dire que nous ne pouvons plus vivre comme autrefois, mais nous vivons en nouveauté de vie. Si quelqu'un est en Christ, avons-nous entendu ce matin, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. L'Église, c'est l'air où il y a la séparation entre le blé et la paille. Écoutez bien, ce n'est pas la séparation entre les individus, pas séparation dans ce sens où l'on dit, toi, tu es spirituel, toi, tu es charnel. Non, vous avez connu cela et malheureusement, quel désastre! Non, non, non. C'est nous tous qui avons besoin de cette séparation. Tous, nous sommes enfants de Dieu. Tous, nous avons été régénérés par le Saint-Esprit. Tous, nous pouvons dire que nous lui appartenons. Et Jean souligne cette vérité. En Christ, nous sommes à Dieu. Nous sommes ses enfants. Mais bien sûr, les enfants ont besoin de voir ce travail de purification se faire de jour en jour, jusqu'à ce jour où tel il est, tel aussi nous serons quand il paraîtra dans le ciel, et que véritablement nous serons transformés en son image. Si nous comprenons cela, alors dans notre marche, en recherchant cette relation avec lui, nous allons être remplis d'une joie ineffable et nous allons pouvoir être des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà pourquoi je dis, quelle chose formidable que ce texte où nous voyons Dieu par avance établir ce qui est la grâce, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit et dont nous sommes les uns et les autres des heureux bénéficiaires. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.